Alors, nous allons appréhender ce qui est désigné comme étant la grande invocation. Cette invocation a été donnée en 1945 par le Christ pour aider à son retour. Je vais vous la donner, mais je voudrais que vous notiez au fur et à mesure, je vais vous la donner une fois et puis on va la reprendre, c'est que vous voyez en fait qu'il s'agit de liaison énergétique, du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ apparaître sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Voilà. Alors on va reprendre si vous voulez, mais on va voir qu'en fait, il s'agit d'une invocation énergétique. Du point de lumière dans la pensée de Dieu. Il s'agit en fait de se relier au mental de l'homme céleste, le plan atmique. Que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. En fait, si vous voulez, c'est une phase qui fait suite que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu. Dans les centres planétaires, la hiérarchie de lumière, la hiérarchie des êtres de lumière, c'est le cinquième règne. Hein, du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ, donc le maître du guide, le chef de la hiérarchie, revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, c'est la maison du Père, là-haut, et Sambala, sur la terre. En plan éthéré. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes. Le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse. Ce qu'il faut savoir, c'est que la finalité du dessein, c'est que l'homme divin marche sur la terre parmi les règnes de la nature. L'homme est en fait le messager des dieux, et il doit le devenir. Que lumière, amour et puissance, lumière c'est lié au mental, à l'âme, amour, énergie d'amour, puissance, énergie de volonté divine, restaure le plan sur la terre. Voilà. Vous voyez donc en fait dans cette invocation, il y a toute une structure de liaison énergétique. Et quand on sait que les centres planétaires, le centre de la tête, c'est Sambala, la maison du Père, le centre du cœur, c'est la hiérarchie de lumière, le centre de la gorge, c'est l'humanité, vous avez le triangle majeur planétaire qui, lui, est aligné. Ça veut dire, si vous voulez, que lorsqu'un être est dans l'humanité, qu'il appartient à la hiérarchie des êtres, et qu'en plus, il est dans l'accomplissement de la volonté, en fait, il intègre les trois aspects des centres supérieurs planétaires. À partir de là, il est un serviteur de la vie. Alors, cette invocation, quand l'être l'énonce, en ayant compréhension des sources auxquelles tend et il entre en contact, eh bien, il est littéralement en tant qu'unité de groupe le canal de ses énergies. Et bien évidemment, ça a un effet dans les structures subtiles qui sont les siennes. Puisqu'en fait, ça veut dire qu'il tend vers l'énergie du plan atmique, la volonté divine, il canalise l'énergie d'amour sagesse et il utilise l'énergie d'intelligence du cœur. À partir de là, il active ces trois corps supérieurs, corps atmique, corps bouddhique, corps manasique. Il a donc une respiration dynamique qu'il enclenche et bien évidemment, il va au Père et le Père vient à lui. Je vous répète, cela a été donné par le Christ, Maitreya, l'aigle blanc, l'imam Mahdi, en 1945, après que les forces du mal furent défaites. Vous avez des points à éclaircir, à préciser ? Dans tous les livres de Bellay, c'est en première page. Alors, quand, en tant qu'unité de groupe, dans votre quotidien, vous consacrez quelques instants et que vous faites usage de cette grande invocation, eh bien, vous vous inscrivez dans la toile de lumière qui permettra au Christ de pouvoir venir sans que son énergie soit destructrice. Et littéralement, vous aurez, en utilisant l'énergie de la volonté, vous vous reliez, et ce sera expliqué dans le texte que vous aurez, que je vous suggère de lire, mais que je ne vais pas forcément commenter, simplement en donner quelques repères. Quand vous utilisez l'énergie de volonté, vous êtes dans le centre lié à la volonté divine, qui est la ligne du Manu. Le Manu, c'est celui qui conduit l'évolution de l'humanité. Quand vous utilisez l'énergie d'amour-sagesse ou christique du plan bouddhique, vous êtes sur la ligne christique, donc du Bodhisattva. Bodhisattva ou Christ, c'est pareil. Et quand vous utilisez l'énergie de lumière, d'intelligence, vous êtes sur la ligne du Maha Shohan, c'est-à-dire du grand disciple. Un Shohan, c'est un disciple consacré. Et vous êtes sur la ligne de l'intelligence du cœur. C'est pour vous montrer que, en fait, eh bien, vous invoquez ces énergies et notre qualification intérieure, donc notre clarté, notre pureté, permet l'intensification du passage de ces énergies en évocation. Vous invoquez et voilà. Et alors, comme je vous l'expliquais, c'est le processus qui fait que vous recevez d'en haut et par conséquent, l'inférieur se nettoie plus facilement. Ne pensez pas que notre clarification des lunaires se fait uniquement à les combattre, ça se produit également par leur élévation. Recommandation, ne le faire qu'en tant qu'unité de groupe. Cela veut dire que vous avez foi dans votre fonction d'éléments du cinquième règne. La foi, c'est l'intime conviction en quelque chose. Alors, si vous avez grande humilité en disant « suis-je qualifié ?», à ça, je vous répondrai « faites comme si ». Quand vous utilisez ces lignes d'énergie, eh bien, c'est votre centre de la gorge, votre centre du cœur et votre centre de la tête qui s'intensifie sous l'afflux énergétique. Et cela correspond à l'épanouissement de votre être intérieur qui, lui, reçoit du plan manasique, du plan bouddhique ou christique et du plan atmique. Et bien évidemment, au passage de cette énergie, vous avez l'intégration des richesses que contiennent ces énergies. Mais cela se pratique en tant que canal. Un magnétiseur et canal, il transmet et au passage, il reçoit. L'énergie n'est pas neutre. Quand elle passe, elle laisse ses richesses. Alors maintenant, il faut savoir que, bon là, si vous voulez, c'est une méditation qui est disponible pour l'être et pour le bien de l'humanité. Il faut savoir maintenant que vous avez des méditations qui sont plus particulièrement liées à des rendez-vous avec les énergies d'en haut disponibles. Et là, nous rejoignons en fait la science des sciences, c'est-à-dire l'astrologie ésotérique. Comme je vous l'ai dit, il y a des moments où celui qui donne la vie à la planète est lui-même en profonde méditation. Ces moments sont liés aux phases de la pleine lune. Elle commence 3 jours avant, c'est le temps de l'invocation. Le jour de la pleine lune, c'est l'intermède, et les 3 jours qui suivent, c'est l'évocation. Il faut savoir qu'à ces pleines lunes, des énergies spécifiques sont disponibles. Ces énergies qui affluent sont neutres dans leur action. Je veux dire par là qu'elle intensifie aussi bien la personnalité que l'âme, voire la monade. Quand vous rayonnez une énergie, elle va intensifier l'aspect dominant de celui qui la reçoit. C'est pour ça qu'au moment de la pleine lune, vous avez des agitations chez les personnes fragiles au niveau psychique. Il faut savoir qu'à chaque pleine lune, les flux d'énergie viennent de grands centres d'énergie. Il faut savoir que pour notre univers, il y a trois centres majeurs qui interviennent, la Grande Ourse, Sirius et les Pléiades. Il faut savoir également, pour ce qui concerne notre planète, que la racine de vie de celui qui donne la vie à la planète est dans Merak, au sein de la Grande Ourse. Si vous faites l'anagramme de Merak, vous allez vous apercevoir qu'on fait carême. Que l'âme du Logos est sur l'étoile polaire, et dans ce centre d'énergie qu'on appelle l'étoile polaire, et que l'aspect mère est lié à Alcyone dans les Pléiades. Ça, c'est pour situer plus spécifiquement la ligne liée à notre aspect planétaire. Il n'en reste pas moins que de ces grandes sources, relayées par les 12 constellations, réduites par le système solaire, donc le Logos solaire. Quand je dis Logos solaire, je désigne en fait l'ensemble des entités divines qui constituent autour du Logos solaire ce centre d'énergie. Il ne faut pas trop personnaliser parce que nous sommes dans des structures qui sont unifiées. Réduites par notre centre planétaire, mais à chaque pleine lune, nous avons telle ou telle énergie caractérisée, colorée en réduction par telle constellation, puis ensuite par le système solaire et puis ensuite par telle planète, ces intervenants réducteurs colorent et déterminent une qualité bien précise d'énergie disponible. Ces énergies courent l'espace universel. Tant qu'il n'y a pas de capteur conscient, c'est comme si elles étaient inexistantes. Je pense que vient tout de suite à votre réflexion les opportunités de s'offrir comme canal pour un monde meilleur. Aujourd'hui, si vous voulez, nous sommes sous le signe, la pleine lune, signe du scorpion, mais aussi constellation de la balance. Qu'est-ce qu'un signe ? Un signe, c'est un voile qui protège de l'intensité d'un flux d'énergie. Quand un point d'énergie, nous allons dire un être du cinquième règne, éveillé, s'offre comme canal en tant qu'unité de groupe, il peut recevoir les énergies liées au scorpion, et si son stade d'avancement lui permet, par sa racine de vie, il pourra capter les énergies de la constellation. Pour être précis, il y a les énergies disponibles du scorpion et les énergies éventuellement disponibles de la constellation de la balance. Nous n'avons pas les flux d'énergie mêlés. Le signe du scorpion a comme caractéristique pour les êtres du cinquième règne d'amener les épreuves libératrices qui emprisonnent l'être et par conséquent de l'aider à couper les 9 têtes de l'hydre. 3 têtes sur le plan mental, 3 têtes sur le plan astral et 3 têtes sur le plan physique. Je vous citerai pour information la haine, la cruauté, l'orgueil, la peur, le désir. Ce qui veut dire qu'un être pourra profiter de ses influences pour peu qu'il ait atteint le niveau de responsivité. C'est-à-dire qu'il est à même de sentir le froid aux oreilles. Voilà, c'est-à-dire qu'il est monté à un niveau de la montagne, et là, voilà. Puis un jour, il sera, comme on dit, au sommet de la montagne, à tout vent. C'est pour vous montrer, par la constellation de la balance, et vous montrer les différences, l'être en alignement de sa racine de vie pourra aborder le troisième aspect, le Saint-Esprit, et influencer l'humanité, puisque là, il est en contact avec sa racine de vie, influencer l'humanité sur les trois aspects liés au Saint-Esprit, c'est-à-dire la loi, l'argent et le sexe. Alors, bien évidemment, il faut faire attention quand on parle du sexe, c'est qu'il ne s'agit pas du sexe physique comme tel, mais du sexe vertical qui lui permet de s'élever jusqu'au ciel. Et donc de réaliser en tant que fils l'union des deux pôles esprit-matière. Quant à l'argent, c'est l'énergie du matériel. Et vous imaginez quel peut être le chantier actuel des êtres qui ont accès à ces niveaux. Quant à parler de la loi, ben en fait, l'action est menée au sens où il faut qu'émerge la justice positive et non pas la justice punitive. Nous sommes actuellement dans une justice humaine qui est négative, qui punit. Alors que si on regarde les réalités, les êtres qui, bien souvent, sont obligés de faire des larcins et tout ça, c'est parce que le cadre d'activité est complètement mafiaté. Et les véritables responsables sont en col blanc et bien cachés. Mais le temps va se terminer. Et ce que vous voyez aujourd'hui ne sont que les prémices de l'ordre cosmique qui commence à souffler sur notre planète. Voilà, alors, ces aperçus, c'est pour vous faire apparaître quel est le rôle actif que peut assumer en tant qu'unité de groupe un être spirituel. Plus il y aura de canaux, plus la potentialité du Père devient active. Voilà. Alors, vous pouvez, si tel est votre souhait, et chacun est totalement libre, mais au terme d'une réunion, ben, avoir un moment où en tant que groupe, vous vous offrez comme canal, en utilisant dans un premier temps la grande invocation. Mais il faut savoir que vous êtes en technique énergétique spirituelle. Vous fonctionnez comme un centre d'énergie. Et là, on voit apparaître la distinction entre prière et invocation. Dans le document qui vous est fourni, et que je vous laisse lire, puisqu'après, comme on dit, c'est un extrait de texte. Je pense que vous ayant expliqué ce qu'était la ligne du Manu, bon, hein, je vous rappelle, on n'emploie que les termes s'ils sont là. Le Manu, c'est lui qui guide la civilisation, donc c'est plus lié à l'aspect volonté. Le Bodhisattva, c'est lié au Christ. Et le Mahashoggi, eh bien, c'est celui que vous avez connu comme ayant été en son temps Francis Bacon, comme ayant été le comte de Saint-Germain. Et aujourd'hui, et récemment, Rakosi, le prince Rakosi. Ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est que dans l'évolution supérieure, la règle du jeu, c'est « pousse-toi de là que je m'y mette ». Ça veut dire que, en fait, si vous voulez, tout ça repose sur des positionnements, donc des sièges énergétiques. Et qu'un être ne peut être libéré de sa fonction que si la relève est là. Donc quand un être se qualifie, eh bien, il libère en fait un être. C'est pour ça, si vous voulez, que Maitreya, celui qui est le Christ, fut en son temps Krishna, se préparant à remplacer Gautama Bouddha. Et quand Gautama a été libéré de sa tâche, eh bien, Maitreya a pris le rôle de grand instructeur. Et lui-même, ça a remplacé, si vous voulez, dans les 2000 ans, par celui qui va lui succéder. Chacun étant libéré à une fonction supérieure. Alors ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est que vous avez des fonctions liées à un globe, vous avez les fonctions liées à une chaîne, c'est-à-dire 7 globes, et des fonctions liées à un schéma. Puis ensuite, on passe à des lignes d'énergie sur le système solaire, et puis à l'infini. Je voudrais quand même vous expliquer ce qu'est la couleur. Quand une énergie afflue d'une grande source, elle est filtrée par un centre qui lui est inférieur. Ce centre va colorer l'énergie, et ainsi de suite. Qu'est-ce que la couleur ? C'est la réactivité des vies mineures à leur capacité à être translucides. Quelle est la vigilance d'un instructeur ? C'est de colorer le moins possible ce qu'il transmet. La compétence de l'instructeur repose sur cette capacité à ne pas colorer. Donc la couleur révèle par son intensité lumière ou baisse de lumière les vertus et bien évidemment d'une façon générale pour les êtres du quatrième âge, les vices éventuels. Plus c'est clair, plus c'est lumineux, plus il y a de rareté lunaire. Sachez que, en tant qu'être, nous n'avons comme seule référence que la lumière qui est la nôtre. Parce qu'en fait, nous ne sommes vus que comme centre de vie, donc d'énergie. Peu importe ce que peut être notre profil terrestre. Ça, c'est le monde de l'illusion qui n'aura qu'un temps, en d'autres termes, une journée de notre être. La richesse d'une vie, c'est dans la capacité de dépassement et donc d'intensification, de clarté et de rayonnement que nous avons acquis. Bien évidemment, la méditation est un soutien permanent pour protéger ce processus. Mais faisons simple et comprenons simplement. Parce que notre respiration énergétique n'est pas polluée par des pensées, des formes pensées de basse qualité, parce que nous savons, par le respect de l'autre, pratiquer de saines relations, nous sommes en état spirituel permanent, puisque nous usons de l'énergie, de sagesse et d'amour. Parce que nous veillons au bien de l'ensemble, c'est-à-dire de prendre en compte l'intérêt général au-delà des clivages et des intérêts mineurs, nous sommes canal aux énergies de la volonté divine. Vous voyez bien la différence entre ce que recouvrent les justes relations, l'amour-sagesse, qui est, comme on dit, l'intérêt de l'harmonie de l'ensemble, et puis l'intention du Créateur. Pourquoi a-t-il créé cette planète de souffrance et d'épreuve? Eh bien, nous sommes en état permanent de canal, que nous renforçons par un alignement journalier et par des rendez-vous d'opportunités énergétiques. Alors, il y a une petite nuance entre voir l'essentiel, donner l'importance à l'essentiel, et puis avoir, par obligation, par empêchement, le fait d'y être mais à distance, et bien évidemment de l'oublier momentanément, voire définitivement. Là où ils n'aiment pas les tièdes, si ça vous rappelle quelque chose. Ce qui est important, voyez-vous, lorsque un être assume, et donc il se discipline aux lois du Père, c'est de faire la distinction entre l'essentiel, qui nous rend précieux pour la maison du Père, et puis d'être un électron libre, qui de temps en temps, s'en remet dans le circuit. Il faut savoir que c'est la liberté intégrale et totale. Vous n'avez d'autres obligations que celles de votre être. Un ancien ne vous dira jamais ce que vous avez à faire en vous rappelant à l'ordre comme tel. Il vous incitera, mais il ne vous dira pas ce que vous avez à faire, puisque la finalité, c'est justement la liberté. Il faut avoir l'intime conviction, donc la foi, de dire symboliquement, et s'il n'en restait qu'un, je serai celui-là. Tout cela nous amène à ce qui a été évoqué dans les premiers cours, c'est-à-dire devenir un être rayonnant. Parce qu'en fait, c'est notre réalité. L'être humain est dans cette potentialité, à lui de comprendre qu'il est la vie et que par conséquent, il doit servir la vie. C'est lié. C'est lié au sens où la couleur, c'est la coloration que tu donnes à une énergie qui, au contact de la matière, donne la lumière. L'énergie a plu. Elle vient de grandes vies cosmiques. Elles sont réduites du cosmos au système solaire, du système solaire à la planète. C'est des filtres. Au passage, le centre en question colore, réduit cette énergie. La lumière se met sur tel aspect.
C'est ce qui donne les couleurs de l'aura.
Oui, au sens où la pensée, c'est une énergie qui va s'extérioriser en prenant des couleurs. Et bien évidemment, plus l'énergie est de haute source, plus c'est bas, plus c'est sombre. Alors je répète que quand vous émettez une pensée, pendant les 12 secondes, ça tourne dans votre corps énergétique et ça va s'exhaler sous forme d'aura. Cette coloration que vous allez apporter, ou qui sera lumière ou qui sera ténèbre, le déva en charge du corps humain va vous amener les matériaux de la qualité demandée. Lui ne cherche pas à savoir si vous dites bien, si vous dites mal. Lui, il doit amener l'exactitude, c'est sa compétence ou sa faiblesse, de vous amener l'exactitude. Bon, donc vous pensez le mal, il vous amène de mauvais matériaux, et puis après vous dites « mal a dit ». Ce qui veut dire que l'homme est maître de son destin et responsable de son monde. Alors bien sûr, vous avez pollué vos vies mineures de cette énergie qui projette ça dans le bocal général, puis voilà. Voilà. Le mécanisme est simple à comprendre. Les conséquences peuvent être désastreuses. En pratiquant la méditation, vous apprenez à distinguer les énergies dont vous faites usage, vous apprenez à être vigilant et vous apprenez bien évidemment à devenir ce que vous êtes. Parce que l'être humain du quatrième règne est un prisonnier de vie mineure, qui l'asservisse. Alors en fait, les uns les autres qui êtes là, eh bien, vous n'êtes pas de la dernière pluie, je veux dire par là, que c'est des choses que vous portez en vous en tant qu'être, mais qui n'ont comme aujourd'hui que simplement d'accéder à une meilleure compréhension de ce qui se déroule. Mais en fait, vous le pratiquez. C'est votre acquis spirituel de vie passée. Ce qui est important, voyez-vous, c'est qu'à un moment donné, pour sortir du règne humain, dans les 20 vies, des 70 vies, et puis les 7 vies de la dernière fois, eh bien, votre ligne droite commence à profiler la porte de sortie. Alors cette porte de sortie, elle est triple, au sens où vous pourrez sortir en tant que seigneur d'amour, et puis vous direz, je suis qualifié, ou en tant que seigneur de compassion, hein, c'est-à-dire non plus seulement pratiquer de justes relations, mais aider les autres à devenir meilleurs. Puis la troisième porte, c'est je tourne le dos à la maison du Père, parce que sa volonté n'est pas encore assumée sur la terre. Mais c'est trois portes de sortie. Plus un être grandit dans ce qu'il est, plus, je dirais, ça lui apparaît comme étant la réalité, les trois portes. Vous pourrez donc lire ce document qui vous rappellera un peu tout ce qui a été évoqué là. Vous aurez également un sujet qui va être traité au niveau de la santé. Mais il faut bien comprendre que le mauvais usage des énergies génère des problèmes de santé dans notre corps mental, dans notre corps émotionnel, dans notre corps éthérique, et tout ça se déverse dans notre corps dense. Notre corps dense est un dépotoir. 5% seulement des maladies relèvent du corps dense. Tout le reste a sa source dans les corps subtils. Et rappelez-vous, la maladie est une épuration. C'est le tribut que nous demandent nos vies mineures de les avoir mal nourries et gérées. En vous rappelant que nos vies mineures, c'est la vie, c'est la vague de vie du Père au sein de la Mère. Si vous gardez cette notion, vous apercevrez de la responsabilité qui est confiée à l'être humain. Cela dit, si vous voulez appréhender ce que Jewalkul a donné comme programme de méditation, il serait possible de donner les extraits. On a un dossier qui est sur un cycle de 7 ans et qui en fait fait que les êtres sont amenés à monter en puissance d'année en année. Si certains d'entre vous le souhaitaient, il serait possible, on a le dossier. Tout le programme qui a été donné sur 7 ans. Je vous rappelle que les êtres qui se disciplinent aux lois de la vie sont classés en 3 catégories, en 3 familles. Il y a les lièvres, il y a les crabes et les tortues. Les jeunes disciples sont des lièvres qui se déchaînent en course de vitesse. Ils foncent, ils foncent, ils foncent, ils s'essoufflent et puis les crabes, c'est tête bien cuit. Tête bac non. c'est la période difficile des tièdes. Et la tortue, c'est les anciens qui, avec l'expérience, nous sommes éternels, nous marchons à notre rythme soutenu.
C'est vrai que cette idée-là, j'ai vu une tortue, j'ai vraiment cette impression, ouais. Son chemin.
Lentement mais sûrement. Et La Fontaine a très bien décrit l'aventure.
Oui, évidemment, oui, c'est vrai. Ça. Quand on crabe, il est un peu tortu quand même.
Il porte déjà une carapace, tu vois, c'est quand même un peu lourd. Hein.
Oui, mais le crabe, il fait un chemin tortueux.
Absolument, ben, il peut pas aller de tout droit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la phase où le non-soi se bat avec le soi. Tu vois, l'être intérieur a livré son combat avec les vies mineures, c'est-à-dire en fait tout ce peloton, tout ce club de vieilles tendances qu'il a en lui et qu'il doit clarifier.
C'est le combat intérieur, c'est... Ouais. C'est pour ça, c'est bien pour ça que le crabe, c'est le scorpion aussi. Hein, de toute façon, le serpent et tout ce qu'on veut.
Oui, mais il faut savoir que par la loi des contraires, une vie va attirer des forces d'opposition. Parce que quand elle se manifeste, elle est dans cette démarche de dire « il faut que je prenne mon chantier pour participer au vaste ensemble ». Ce qui veut dire que par la loi des contraires, il va y avoir une neutralisation apparente. Ce qui veut dire aussi que même un guide connaîtra ce chantier. Non pas parce que ça lui est propre, mais parce que par son sacrifice, il prend un lot important du chantier. Et on le voit autrement, au sens où parfois, par cette démarche d'amour, de se sacrifier, c'est-à-dire de tourner le dos à la porte de sortie, de grands êtres viennent au risque de chuter.
Ah, au risque de chuter quand même.
Ah bah oui. Par le principe même qu'il n'y a pas de gloire à triompher sans risque.
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, n'est-ce pas ?
Non mais, comprenez bien ça. Hein, c'est-à-dire que l'être qui dit « je vais me qualifier en tant que seigneur de sacrifice », il prend le risque de se planter.
Ça se concrétise comment quand les guides chutent ?
Ben, ils auront à remonter. C'est notamment le mystère du Bouddha.
Mais le retour est plus sec.
Peut-être difficile, si vous voulez, pour saisir comme ça. Enfin, je vais essayer de... Le Bouddha, à un moment de l'évolution, si vous voulez, supérieure, chaque entité corporelle peut se créer corps de manifestation. Ça veut dire qu'une grande vie, si vous voulez, peut avoir des représentations d'elle-même sur Terre. Plusieurs fois, cinq fois. En tant que racine de vie, le Bouddha a été appelé à une évolution supérieure. Il n'en reste pas moins que par son amour, ayant réalisé qu'avoir voulu faire avancer les brahmanes trop vite par rapport à leur capacité spirituelle, hein, je vous rappelle qu'à un moment donné, il leur a dit, après avoir recueilli leur enseignement, il leur a dit, mais attention, vous retenez l'accès à la connaissance alors qu'elle appartient à toute l'humanité. Et vous n'avez pas comme ça à faire une caste de privilégiés. Bah. Ce à quoi les brahmanes ont dit « Ah, dans ces conditions-là, on verrouille encore plus. » Le Bouddha a dit « J'ai eu l'effet inverse. » Eh bien, une partie de moi-même restera sur cette terre tant que je n'aurai pas ramené ces êtres dans le chemin que je souhaitais les entraîner. Vous voyez le sacrifice ? C'est le secret du Bouddha et la faute du Bouddha. Le secret, parce que c'est une partie de lui-même qui est restée, et qui, par définition, mène une vie indépendante. Il n'y a qu'une seule vie à travers tous les univers. Donc tout ça, c'est compréhensible. Aussi surprenant que ça puisse paraître. S'il n'y a pas qu'une seule vie, il n'y a pas d'absolu. Or, si vous voulez, il y a une seule réalité, qui n'est pas un être, d'où émergent toutes les vies en manifestation. Donc nous avons tous notre racine de vie dans l'absolu. Mais l'absolu, dans son absolue conscience, a dit tout le monde à l'aventure. Aucune gloire d'être cela. Chaque élément de vie devra assumer son éternel pèlerinage. On va peut-être en rester là. Si vous le souhaitez, on fait ensemble un premier travail énergétique. Je vous dis tout de suite, hein, ce dossier, il a X dimensions. Hein. Mm-hmm. C'est un gros volume, ça. Je vous rappelle ceci. Jusqu'au 18e, les êtres étaient suivis individuellement dans leur réalisation.
18e siècle.
Oui, jusqu'au 18e. Et puis ensuite, compte tenu de la qualification importante des êtres, il ne pouvait plus être envisagé de les suivre individuellement. Il a donc été décidé, et compte tenu de l'ère du Verseau, que désormais, eh bien, le livre de la connaissance, le livre de la sagesse et le livre de la vie seraient mis à la disposition des êtres concernés qui se retrouveraient en présence physique, mais en faisant partie du cinquième règne. Voilà. Donc ce processus se déroule à travers la Terre, étant entendu que le cinquième règne est la centrale énergétique du Père, puisqu'en fait c'est le premier centre qui peut agir consciemment, et qu'il n'y a qu'un seul groupe planétaire, mais qui est coloré ici et là. Alors sachez d'une part que ce n'est pas la première fois que vous avez ce genre de rendez-vous. Simplement, maintenant, ça se fait en réunion de groupe. Et comme vous travaillez la nuit, eh bien, vous préparez ce que l'on étudiera le moment venu en réunion. Ce qui veut dire qu'il y a en chacun de vous un ressentir de déjà appréhendé, déjà entendu, des gens déjà travaillé. Voilà. Le rôle de l'instructeur n'est que de montrer comment ça semble le pulse.